Bonsoir. Merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui. C'est la première conférence 2017 avec le Collège d'études mondiales et nous sommes ravis de commencer avec la conférence inaugurale de la chaire Exil et Migration, Alexis Mouzelovici. Ce partenariat de l'école, du Collège d'études mondiales, de la Fondation Maison Sciences de l'Homme et de la Fondation Gulbenkian a été mis en place en 2012, encore avec mon prédécesseur. C'est un partenariat qui marche très très bien, assez productif, et nous sommes très heureux de continuer à travailler avec Michel Viviorca, avec Olivier Bourin, avec Sarah Guindani, Gwenaëlle Lippe, Alexis évidemment. Et commencer avec ce sujet, malheureusement d'actualité, c'est aussi un geste pour nous important. La Fondation Gulbenkian, c'est un sujet qui est très au cœur de notre fondation. La Fondation Gulbenkian à Lisbonne et à Londres développe des projets, des programmes autour de la question des réfugiés, des migrations, des exilés. Évidemment, en tant que fondation portugaise, la question des migrants est toujours très présente. Le peuple portugais est un peuple de migrants. Chaque famille portugaise a une expérience de migration, de n'importe quelle façon. Évidemment, je pense au peuple arménien. Kalous Gulbenkian était un arménien. Et le peuple arménien, comme les Portugais, sont aussi c'est un peuple de migrants, un peuple qui est venu en France à un moment donné. La France, les Portugais doivent beaucoup à la France, notamment. Et évidemment, Kalous Gulbenkian lui-même, il était un exilé. Il a dû partir deux fois en sa vie, peut-être qu'il était en exilé de luxe, mais en exilé quand même. Il a dû partir à la fin du 19e siècle d'Istanbul, au début des premières persécutions. Un peu plus tard, en France, il a dû partir vers le Portugal dans les années 40. Mais voilà, en exilé quand même. Donc je remercie à tous d'être venus au collège, à Alexis Mouzelovici d'être là, et je vous souhaite une excellente conférence.
Bonsoir, je suis Olivier Bouin, je suis le directeur du Collège d'études mondiales, qui est le partenaire de la Fondation Gulbenkian depuis, comme tu l'as dit, 4 années pour une série de conférences. Au départ, c'était sur toute transforme et on continue à travailler ensemble à Paris et à Lisbonne, puisque nous étions pour une grande réunion d'un panel international sur le progrès social fin janvier à Lisbonne. Et nous avions organisé, d'ailleurs avec Michel Viviorca, qui est présent ici et que je salue, une table ronde sur la question de la migration avec un éclairage à la fois européen et africain. Donc je vais présenter très rapidement Alexis et surtout lui passer la parole parce que c'est lui qu'on a envie d'écouter. Donc Alexis est professeur en littérature générale et comparée à l'Université d'Aix-Marseille. Après avoir été professeur à Cardiff University et à l'Université de Montréal, il est membre de plusieurs, où il a fondé plusieurs équipes de recherche internationales. Il a notamment créé au Canada le groupe de recherche PoExil et en Grande-Bretagne le Cardiff Research Group on Politics of Translating. Il dirige à Aix-Marseille maintenant un groupe qui s'appelle Transposition au sein de son labo de rattachement, qui est le Centre interdisciplinaire d'études des littératures d'Aix-Marseille, le CIELAM. Alors, ces champs de recherche et de réflexion concerne notamment la traductologie, l'expérience exilique, la littérature du témoignage, les problématiques du métissage, les esthétiques de la modernité. Et je cite très simplement 3 ouvrages. Plaidoyer pour un monde métis en 2005. Paul Celan, qui est un fil conducteur de ta production scientifique, intellectuelle depuis plus de 25 ans. Donc un livre qui s'appelle Paul Celan, les lieux d'un déplacement, 2010. Et la maison d'édition de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, dans une collection qui a été lancée par Michel Viviorca, qui s'appelle Intervention, un texte très beau qui s'appelle La condition de l'exilé, penser les migrations contemporaines. Alors Alexis collabore avec la Fondation Maison des Sciences de l'Homme de Paris depuis plusieurs années dans le cadre de 2 programmes qui s'appelait « Figure de l'exil et expérience de l'exil ». Et il est depuis cet automne, et c'est l'objet aussi de cette conférence qui est une forme de leçon inaugurale de sa chaire, il est titulaire d'une chaire au Collège d'études mondiales qui s'appelle « Exil et migration ». Vous retrouvez le titre de sa conférence. Et l'objet ici est de développer en France ce que tu appelles de manière très convaincante les études exiliques. Notamment dans leurs liens, et c'est ce qui nous intéresse beaucoup après tout le travail que tu as pu effectuer depuis une bonne dizaine d'années sur cette question de l'exil, à la fois comme condition et comme conscience, d'essayer de frotter cette notion d'exil à d'autres catégories qui sont peut-être plus impersonnelles, ou plus statistiques, ou plus neutres dans leurs appellations, comme migration ou mobilité. Et l'objet aujourd'hui de cette chaire qui t'a été confiée est de travailler, de jeter un pont pluridisciplinaire entre les humanités et les disciplines des sciences sociales qui s'intéressent généralement à la migration ou à la mobilité, c'est-à-dire l'économie, la science politique, la sociologie, le droit, l'anthropologie. Et donc l'idée vraiment dans cette chaire de faire dialoguer cette notion d'exil avec d'autres catégories statistiques ou une définition, une approche plus neutre de ces grands phénomènes contemporains. Et c'est un des objets ou une des dimensions de ce Collège d'études mondiales que Michel a souhaité lancer en 2011, donc maintenant il y a plus de 5 ans, qui est de faire un pont dans la compréhension des grands phénomènes contemporains entre la subjectivité et les grandes dynamiques globales. Et la chaire que tu proposes, avec l'objectif scientifique intellectuel que tu t'es donné, est de faire un pont entre une problématique, on va dire, qui introduit la dimension subjective, celle de l'exil, à la fois comme donc conscience et comme condition, et des grands phénomènes contemporains qui peuvent être liés à de la mobilité ou de la migration. Donc nous sommes ravis de t'accueillir au sein du collège, de t'accueillir ce soir pour cette conférence. Miguel l'a rappelé, c'est un enjeu aujourd'hui énorme, pas simplement pour les sciences sociales, mais pour les sociétés, pour les individus, pour les communautés, que de mieux comprendre cette question ou ces problématiques liées à ce triptyque mobilité, migration, exil, et de les questionner à nouveau frais en créant de nouvelles pistes de réflexion. Donc je te cède la parole, Alexis, en remerciant une nouvelle fois la Fondation Gulbenkian. Nous aurons d'autres rendez-vous au cours de ce semestre dans le cadre de ce partenariat qui avait été initié par Michel et Jean Carassa, ton prédécesseur, et que nous sommes ravis de continuer dans les prochains mois. Merci.
Merci Olivier. Je tiens d'abord à adresser mes remerciements à la Fondation Gulbenkian et à son directeur de nous accueillir pour cette conférence inaugurale. Je commence à connaître le lieu et plus je le fréquente, plus je l'apprécie. Puis je voudrais exprimer avec sincérité, avec émotion, ma profonde et intense gratitude à toutes celles et ceux qui, à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et au Collège d'études mondiales, ont encouragé, ont permis la création de cette chaire, pour leur soutien constant, pour leur confiance. Merci les dames d'abord à Sarah Guindani, Gwenel Lip, à Corinne Le Carrère, puis à ceux qui portent barbe et moustache, Olivier Boin et Michel Vivorca. La conférence entend à la fois vous présenter la chaire, ses orientations et ses activités, et vous présenter mon propre positionnement quant aux problématiques qui sont reliées à cette chaire. Le film s'intitule « The Immigrant » et date de 1917. À ne pas confondre avec le film du même titre, sorti en 2013, un film de James Gray avec Manon Cotillard. C'est Chaplin, évidemment, lui-même ayant émigré aux États-Unis en 1913. Un élément est frappant dans cet extrait. Les migrants sont soudainement arrêtés dans leur élan migratoire. Contrairement au vers d'Emma Lazarus, écrit en 1883 et inscrit au pied de la statue de la liberté, sur laquelle s'arrête le regard à la fois inquiet et perplexe de Chaplin, l'Amérique ne va pas accueillir tous les pauvres et tous les opprimés du monde. La migration en 1913 ne va plus de soi. Nous sommes au moment de la Première Guerre mondiale, juste avant, dans le pays que John Kennedy appellera plus tard « A Nation of Immigrants », une nation d'immigrants, dans un livre paru en 1958 et dans lequel il cite précisément les vers de Emma Lazarus. La migration ne va pas de soi. Bien sûr, la rationalité comprend qu'il ait été nécessaire d'instaurer des mesures de contrôle sanitaire et légal afin de ne pas fragiliser une structure sociale, un équivalent des rites d'initiation dans les communautés traditionnelles, mais que cette procédure devienne peu à peu un appareillage de sélection reflétant un dispositif de pouvoir, ce que montre précisément le film de 2013, The Immigrants, un dispositif de pouvoir introduit alors un questionnement légitime. Une rupture est constatée, liée à un cadre historique et à un contexte social. Et le regard scientifique doit constamment être attentif aux ruptures, soit qu'il les intègre, soit qu'il les juge non pertinentes, soit qu'elle l'oblige à reconsidérer son système optique. La rupture en science, sa nature et sa fonction constitue un thème majeur en épistémologie, et réfléchir sur la migration aujourd'hui s'inscrit dans cette réflexion dont les sciences humaines et sociales ne cessent de nourrir la dynamique. D'une certaine manière, la reconnaissance d'une dialectique entre rupture et continuité dessine la spécificité des sciences humaines et sociales par rapport aux sciences dites dures, qui, elles, pratiquent volontiers une logique d'opposition entre rupture et continuité. Pour illustrer mon propos, quelques mini-fables épistémocritiques. La Terre était plate, puis un jour elle fut ronde. La Terre était au centre de l'univers, puis un jour elle tourna autour du Soleil. La pomme tombait où elle voulait, puis un jour elle ne fit plus que tomber verticalement. L'homme descendait de l'homme, puis un jour il descendit du singe. Certes, ces changements furent progressifs et les 24 heures mentionnées, puis un jour, n'ont qu'une valeur rhétorique, à l'instar du récit de la Genèse. Tout changement dans notre compréhension et notre conception du monde prend du temps et résulte de ce que l'historien des sciences Thomas Kuhn appela un changement de paradigme. Des anomalies surgissent dans un système de connaissances et la pression devient peu à peu suffisamment forte pour que le système doive être transformé. Galilée et Newton viennent remplacer Aristote. Einstein vient remplacer Galilée et Newton, etc. Ce processus n'est pas propre aux phénomènes naturels puisque l'histoire des sociétés les accueille pareillement. Le noir était esclave, puis un jour il fut libre. La femme ne votait pas, puis un jour elle déposa son bulletin dans l'urne. Le climat se réchauffait, puis un jour il fut régulé, plus ou moins. Dans cette optique portant sur les structures sociales, l'être humain prend progressivement conscience de ce que des anomalies grèvent le fonctionnement des communautés qu'il peuple et il adopte par conséquent des perspectives différentes lui permettant de prendre des mesures adaptées afin de remédier aux ratés dans son développement. La migration n'allait pas de soi au début du XXe siècle, disais-je à propos du film de Chaplin, incitant alors à une modification du regard sur la migration aux États-Unis. Les sociologues et les historiens l'ont fait, étudiant le décret du Congress obligeant les immigrants à être alphabétisés pour être reçus. Et puis un peu plus tard, l'Emergency Quota Act de 1901 et l'Immigration Act de 1924. Toutes mesures visant à réduire les flux d'entrée avec les conséquences néfastes à partir des années 30 pour ceux qui arrivaient d'Europe. Mais je voudrais également citer un autre éminent observateur du nom de Franz Kafka. Je vous livre ici le premier paragraphe de son roman « America » où nous retrouvons notre statut de la liberté. Lorsqu'à 16 ans, le jeune Karl Rossmann, que ses pauvres parents envoyaient en exil parce qu'une bonne l'avait séduit et rendu père, entra dans le port de New York sur le bateau déjà plus lent, la statue de la liberté qu'il observait depuis longtemps lui apparut dans un sursaut de lumière. On eût dit que le bras qui brandissait l'épée s'était levé à l'instant même, et l'air libre soufflait autour de ce grand corps. Qu'est-ce qui ne va pas dans la description de Kafka ? Effectivement, l'élément de la description chez Kafka s'éloigne de l'exactitude requise. L'épée énergiquement levée dans le texte ne part pas la statue de la liberté qui en réalité tient un flambeau. Fidèle à son nom, la liberté illuminant le monde, que souligne le dernier vers du célèbre poème d'Emma Lazarus, « I lift my lamp beside the golden door », « Je lève mon flambeau à côté de la porte en or ». Doit-on conclure à une faute d'inattention de Kafka ? Non. Mais que veut dire alors cette substitution quant à l'objet au bras de la statue ? Symbole pourtant indissociable d'un certain discours sur l'exil qui célèbre la lumière de la liberté surgissant dans les ténèbres de l'oppression et offrant sa lueur réconfortante à ceux qui fuient le malheur. Pourquoi remplacer le flambeau de la liberté par le glaive de la justice ? C'est que peut-être dans ce contexte, la liberté n'est pas l'essentiel. Le principe de migration a changé. Le glaive de la justice passe avant le flambeau de la liberté. L'équité avant le bonheur. L'idée revêt une version connue. Je ne suis libre que si les autres le sont, c'est-à-dire si règne la justice. Parallèlement à cette interprétation, cette compréhension de la migration que nous donne Kafka, l'exil ne prend sens pour l'exilé que si l'exilé trouve sa liberté parce qu'il lui sera fait justice. Non pas la liberté, mais la justice. Dans cette perspective, l'exil n'est ni fuite ni punition, mais l'expression d'un tort que l'exilé subit. Être admis et accepté de plein droit par la société d'accueil équivaudrait à une réparation. Cela change totalement la perspective quant à une politique d'accueil. Accueillir au nom de la justice et non pas au nom de la charité. Inutile de souligner la pertinence d'un tel changement d'optique dans la situation actuelle. Un certain Victor Hugo, quelques décennies auparavant, le disait déjà. L'exilé a besoin que le monde soit réinvesti par la justice. Hugo en développe l'argument dans un poème de la légende des siècles intitulé « Écrire en exil », emblématique de tout ce recueil dont les textes furent composés durant la période de sa proscription sous Napoléon III. L'heureux n'est pas le vrai, le droit n'est pas le nombre, un vaincu toujours triste, un vainqueur toujours sombre. Il faut dans l'univers fatal et pourtant libre, aux âmes l'équité comme aux cieux l'équilibre. J'ai besoin de sentir de la justice au fond du gouffre où l'ombre avec la clarté se confond. J'ai besoin du méchant mal à l'aise et du crime retombant sur le monstre et non sur la victime. De facto, les vers d'Hugo écrits en exil et nous faisant réfléchir donc sur cet impératif de justice dans l'expérience de l'exil viennent être illustrés par une métaphore fréquente dans le récit actuel des migrants. Est fréquente la métaphore venant remplacer la souffrance exilique par une sensation d'emprisonnement. Paradoxalement, un départ dont l'élan vise à plus de liberté aboutit à sa restriction. Les exilés répètent qu'ils ne sont pas des criminels, que justice doit leur être rendue. Dans un documentaire de 2012 intitulé « Ceuta, 12 prisons », Simon, un exilé africain, compare sa vie dans l'enclave espagnole du nord marocain à une prise au piège alors qu'il espérait trouver le chemin de la liberté. On a l'impression, dit-il, d'être dans une prison dont on ne connaît pas le verdict. Fin de citation. On croirait du Kafka. On comprend alors que l'anthropologue Michel Agier est nommé son livre « Le couloir des exilés » avec, outre la réalité, le parallèle d'une vie qui passe de camp en camp le long d'un couloir, un renvoi avec le couloir des condamnés à mort. Vous l'avez compris, je suggère qu'à l'image des années 1920 aux États-Unis, le mouvement migratoire contemporain en Europe, mais ailleurs aussi, ne va pas de soi. Et une chaire comme celle-ci se donne alors pour objectif de tenter de comprendre ce qui ne va pas de soi, et surtout invite à ne pas demeurer aveugle s'il y a rupture dans l'histoire des migrations en Europe, afin de pallier aux obstacles qui peuvent devenir extrêmement dangereux. La migration, donc, affaire de justice, selon Hugo ou selon Kafka. Il est intéressant de constater que le cadre de réflexion politique cède rapidement aux enjeux moraux dans le domaine. Prenez le dernier procès de Cédric Héroux, le 10 février à Nice, l'agriculteur ayant aidé les migrants dans la vallée de la Roya. Ce qui préoccupa le tribunal fut la ligne séparant, je cite, « humanitaire et militantisme ». Intéressant débat qui rappelle celui qui compare résistance et terrorisme. Vieux débat au demeurant qui remonte à Antigone. Mais son ancienneté ne gâche en rien sa pertinence morale et politique. Comme quoi la question migratoire est au cœur de la res publica aujourd'hui. Le président Trump l'a parfaitement senti. Dommage que la campagne présidentielle en France en soit quelque peu éloignée. Les sciences humaines et sociales ont besoin de cadres historiques sur la petite, moyenne ou longue durée. Le chercheur a le droit de varier les cadres, mais le devoir de toujours préciser celui qu'il ou elle emploie. Nous avons mentionné, dans le premier quart du XXe siècle, l'évolution ayant touché l'histoire de l'immigration aux États-Unis. Autre cadre, depuis les années 1950, en Europe, en France, les Algériens, les Espagnols, les Portugais, histoire de vagues migratoires. Puis aujourd'hui, depuis une décennie avec un tournant brutal en 2015, un cadre totalement différent. Dans ce cadre donc, depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui, le migrant auparavant migrait parce qu'il voulait vivre mieux ou qu'on lui offrait de vivre mieux. Il migre aujourd'hui parce qu'il veut tout simplement vivre. Il fuit la guerre, la famine, la persécution, la misère, le chômage, la désertification, la dévastation nucléaire. Si les causes sont diverses, elles concourent à donner aux migrations contemporaines une ampleur et une nature inédites. Plus d'un million de migrants irréguliers parvenus en Europe au cours de l'année 2015, dont un cinquième d'enfants. 350 000 environ en 2016, dont un peu plus d'un cinquième d'enfants. Plus de 30 000 morts en Méditerranée depuis l'année 2000. 3 000 disparus en 2015. 10 000 mineurs disparus sur Terre depuis 2 années. Un nombre de déracinés dans le monde supérieur, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, au chiffre de 50 millions atteint lors de la Seconde Guerre mondiale. Une dizaine de camps de rétention ou de jungles sur les territoires européens, 250 millions de migrants climatiques prévus pour 2050. Et sur la scène mondiale, 1 milliard de migrants, tous statuts confondus, internes aux frontières nationales ou les franchissants, réguliers ou irréguliers. 1 milliard dans le monde, soit 1 habitant de la planète sur 7. Scène globale. Et non seulement celle de la migration en général, mais bien celle de la migration irrégulière. On le savait pour l'Asie, entre la Birmanie, le Bangladesh, la Thaïlande et la Malaisie, entre 80 000 et 100 000 personnes actuellement. Maintenant, les épisodes d'exilés arrivant épuisés, mal vêtus et demandant l'asile politique se multiplient à la frontière américano-canadienne, depuis le décret passé par le président Trump. Certains arrivent en bus, d'autres en taxi, d'autres traversent à pied et par moins 15 des espaces enneigés pour passer en Ontario ou au Québec, des Soudanais, des Érythréens, des Afghans, comme ici. La situation migratoire actuelle est telle qu'on ne peut que conclure à un changement majeur dans l'histoire des migrations qui accompagne l'histoire de l'humanité depuis ses débuts, ce qui oblige le savoir sur les migrations à un changement paradigmatique avec une priorité accordée aux déplacements forcés car ils sollicitent plus urgemment la recherche, d'où la question rupture ou continuité. Double question en réalité. Rupture ou continuité entre la migration globale aujourd'hui et les mouvements migratoires antérieurs? Première question. Et deuxième question, rupture ou continuité entre la migration globale aujourd'hui et, pour ce qui nous concerne d'abord, le processus dit de crise migratoire en Europe aujourd'hui? En d'autres termes, sur cette seconde question, faut-il dissoudre le drame migratoire européen actuel dans la problématique migratoire globale? C'est la direction prise par la seule initiative dans le sens d'une gouvernance mondiale des migrations, à savoir les travaux du Forum mondial sur la migration et le développement qui s'est réuni depuis huit fois déjà entre 2007 et 2015. Migration et développement. Le couplage est significatif. Une autre interrogation résumerait ces deux questions. Doit-on passer au temps long, celui de l'exil, pour comprendre l'aujourd'hui de la migration? Dans les sciences humaines et sociales, parce qu'elles traitent de l'humain et du social, c'est-à-dire du vivant, la recherche admet une part d'approximation, de flou, de bouger dans les résultats. L'argile plutôt que le marbre. Une science de l'inexactitude. Il est frappant de constater que lorsque les sciences humaines et sociales succombent à la tentation de l'exactitude, pour des raisons internes ou externes, externes signifiant ici financement, certains objets viennent les rappeler à l'ordre, ou au désordre plutôt. Deux exemples. Le premier dans mon domaine de travail, la littérature. Tout au long du XXe siècle, depuis le formalisme russe jusqu'au structuralisme français, la théorie littéraire a peu à peu mis en place des grilles d'analyse permettant de réduire l'écriture à des mécanismes de production. Puis vint les compères post-structuralisme, post-modernisme et post-colonialisme qui revendiquèrent avec succès pour la littérature le droit au balbutiement, au bégaiement, au bafouillement. Second exemple, la ville qui depuis l'après-guerre et ses pulsions de reconstruction était devenue un objet à planifier, à mesurer, à contrôler, aboutissant à une doxa dont les effets délétères apparurent à partir des années 70. Puis on se souvint qu'une ville avait des habitants et que ceux-ci primaient. Sociologie et philosophie aidèrent alors la ville à se repenser par l'architecture humaine avec plus ou moins de succès. Rupture ou continuité, la question est classique et récurrente dans le champ des connaissances. Chaque modernité la repose au point que chaque modernité peut s'y résumer, quel que soit le domaine. Ce qui est intéressant dans la question, c'est que ce sont les implications de la réponse qui rendent la question intéressante et non pas la question en soi. Pour notre sujet, si le phénomène contemporain est dans la continuation des phénomènes migratoires précédents, les difficultés rencontrées par le processus dit de crise migratoire sont conjoncturelles et pourront être résolues. Si une rupture se constate, il est alors normal que les structures en place ne peuvent fournir de réponses adéquates et il importe de trouver de nouvelles voies de réflexion. Il ne s'agit pas de trancher, mais de proposer des travaux de recherche qui puissent éclairer. La question rupture ou continuité ici ne doit pas être ce que Bachelard appelait un obstacle épistémologique, c'est-à-dire une entrave au développement du savoir, mais un tremplin pour construire de nouvelles perspectives utiles dans leur complémentarité. Si je veux trancher entre rupture et continuité, paralysé par l'obstacle, je risque de demeurer paralysé. Je dois essayer de dialectiser la rupture et la continuité. Pour ce qui est de cette chair, dont ce soir la conférence est inaugurale, mais dont les travaux ont commencé depuis septembre dernier, j'ai déjà un exemple de cette tension entre rupture et continuité. La séance de janvier du séminaire, qui invitait Xavier Chornicki, un économiste de Lille, a montré que du point de vue de l'économie, il y avait continuité, puisque le nombre de migrants arrivés, par exemple, en France, se dissolvait dans le flux migratoire habituel depuis des dizaines d'années, et donc ne venait aucunement influencer la situation économique. En revanche, la séance de novembre dernier allait dans le sens exactement contraire. La sociologue Karen Akoka de Paris 10 montra que le sens du terme « réfugié » n'avait rien de stable et était soumis aux pressions d'interprétations politiques successives. C'était donc une chaîne de rupture autour de l'enjeu « qu'est-ce qu'un réfugié ?». Vous pourrez retrouver l'intégralité de leur conférence sur le carnet de la chaire, mais aussi dans ce que j'ai appelé des valises, des interventions brèves de 3 à 5 minutes faites par des spécialistes tels que mes collègues, sur les différents points relatifs au processus migratoire. Vous trouverez ces valises sur le carnet et sur le compte Facebook de la chaire Exil et Migration, dont je redonnerai les coordonnées à la fin de cette conférence. La dialectisation entre rupture et continuité peut se lire autrement, dans une perspective existentielle, pour ne pas dire psychologique, alliant des sensations opposées. Ainsi, le poète Mahmoud Darwish percevait la situation exilique comme, je le cite, « la quête du normal dans ce qui n'est pas normal », écrit-il dans « L'exil recommencé ». Chagall, quant à lui, représentait sur la fresque le message d'Ulysse de la fac de droit de Nice, un Ulysse au milieu, tout à fait tranquille, au milieu de scènes tumultueuses, comme s'il vivait ses aventures anormales tout en ne les vivant pas, restant normal. À ce propos, je rappelle que si l'Ulysse d'Homère revient à Ithaque, il est impatient d'en repartir, migrant un jour, migrant toujours. Et que par ailleurs, dans la Divine Comédie, Dante, l'exilé de Florence, fait périr Ulysse noyé dans la Méditerranée, en faisant dès lors une figure topique de nos arrivants actuels. Normal et anormal. Lauréat du Visa d'or du Festival international de photojournalisme Visa pour l'image de Perpignan pour son travail sur l'arrivée massive de migrants sur l'île de Lesbos en 2015, le photographe Haris Messinis rapporte, je le cite, que la nature de ce travail est tel qu'il équivaut à photographier des scènes de guerre en temps de paix. Normal, pas normal, rupture ou continuité. La question est éminemment soumise au regard des historiens. La chaire a participé en décembre dernier à un atelier qui réunissait médiévistes et spécialistes du monde contemporain. Une conclusion majeure fut la proximité des expériences exiliques telles que vécues au Moyen-Âge et celles dont témoigne notre modernité, comme si les deux périodes se rencontraient sur ce point en dehors de toute continuité. Un exemple en rapport avec le lieu qui nous accueille ce soir. J'opposerai deux œuvres, l'une filmique, l'autre littéraire. Le film « La cage dorée » de 2013 de Ruben Alves vient conforter l'image d'une migration portugaise en France avec ses aspects attendus, normaux, qui recoupent, qui continuent ceux d'autres populations migrantes. Mais José Luis Peixoto publiait en 2010 un livre qui s'inscrit comme une œuvre majeure dans la littérature exilique, « Livro ». On l'a salué comme le livre qui comptait enfin la saga de l'émigration portugaise en France, Mais l'importance du livre dépasse cette dimension documentaire normalisante pour au contraire s'attacher à traduire dans l'exil portugais les déchirures, les contradictions, l'anormal. Rupture ou continuité ? Un autre exemple tient dans la comparaison des migrants actuels avec les exilés fuyant l'Allemagne nazie. L'analogie a été faite à la suite du décret anti-immigrant du président Trump. Et ce tweet en fournit l'illustration. Je cite le premier. « My name is Margaret Hope. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered at Sobibor. » Je m'appelle Margaret Hope. Les États-Unis m'ont refoulé à la frontière en 1939. J'ai été assassiné à Sobibor. D'autres exemples ici dans ce tweet. Au nom de quoi ce rapprochement entre migrants, sinon d'une similarité offerte par l'expérience exilique ? Analogie complexe comme toutes celles qui touchent au conflit mémoriel. Nous n'avons pas le temps de poursuivre ce soir ce débat qui s'est aussi posé en France. Le Syrien d'aujourd'hui est-il le juif d'hier ? Ajoutons que lors des tumultes de la Seconde Guerre mondiale, le refus d'une quelconque continuité s'affirmait déjà. Bertolt Brecht écrivait « J'ai toujours trouvé faux le nom qu'on nous donnait, émigrant. Le mot veut dire expatrié, mais nous ne sommes pas partis de notre gré pour librement choisir une autre terre. Nous n'avons pas quitté notre pays pour vivre ailleurs, toujours s'il se pouvait. Au contraire, nous avons fui, nous sommes expulsés, nous sommes des proscrits et le pays qui nous reçut ne sera pas un foyer, mais l'exil. » Le naufrage d'octobre 2013, près de Lampedusa, dans lequel périrent 300 victimes. Les naufrages d'avril 2015, dans lesquels se noyèrent 1500 exilés. Est-ce l'indice Titanic ou l'indice Auschwitz qui doit leur être appliqué ? Un accident qui s'inscrit dans une chaîne d'épisodes malheureux, mais saisissable par la raison, ou un phénomène dont l'ampleur tragique déborde les lois mêmes du tragique et demande de nouvelles grilles de compréhension. On se souvient que pour une catastrophe naturelle, telle que le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 et ses 55 000 victimes, Voltaire en vint à douter de sa capacité à faire entrer ce phénomène naturel dans les règles de l'acceptable et argumenta contre toute forme d'optimisme philosophique à la Leibniz. Et que faire de ces chiffres ? En 2016, moins de migrants, trois fois moins qu'en 2015, mais plus de morts, un tiers de plus qu'en 2015. Rupture ou continuité ? Comment appelle-t-on cela en économie ? Un surplus, un excédent, entre vivant et mort, on soustrait toujours, on additionne jamais. Toute connaissance implique un travail de nomination. De quoi parle-t-on ? De migrants, de crise migratoire ? Pas si simple, à commencer par le terme même de migrant. Un nouveau venu dans la francophonie hexagonale qui parlait d'immigrants ou d'émigrants, d'immigrés ou d'émigrés, et qui a tout simplement adopté l'anglicisme migrant, migrant, parce que la France rencontre le phénomène au même titre que ses partenaires européens, et qu'en Europe, à Bruxelles en tout cas, on parle anglais. J'y reviendrai. Mais à cette explication empirique s'ajoutent d'autres considérations, critiques cette fois, sur l'usage du mot migrant et ses termes rivaux, réfugiés, exilés. Quelle serait la juste terminologie ? Si je pose la question, c'est que l'hypothèse de départ préalable aux travaux de la chaire pose le mouvement migratoire contemporain vers l'Europe comme différent en qualité et en qualité des mouvements précédents. L'hypothèse peut être infirmée ou confirmée, rupture ou continuité. Mais être migrant n'est pas un accident de l'histoire ou du destin. Et n'accompagne pas les symptômes d'une quelconque crise migratoire. Il n'y a d'ailleurs pas de crise migratoire à Paris, à Calais, à Lampedusa, à Kos, Au contraire, la migration n'est pas en crise. Elle se porte très très bien. Le mouvement continue. C'est en millions qu'on compte les migrants arrivant en Europe. Pas davantage une crise sociale ou économique, mais bien une crise politique ou morale, une crise éthique, non pas une crise humanitaire, mais une crise de l'humain, des limites de ce qu'on appelle une culture, l'occidentale, là où elle est prête à reconnaître ce qui relève de l'humain, qu'on l'appelle autrui, frère, compagnon ou camarade. L'artiste chinois Ai Weiwei intitule sa dernière œuvre filmique « Human Flow », le flot humain, un documentaire tourné l'année dernière dans une vingtaine de pays. Et il déclare « There is no refugee crisis, but only human crisis. With refugees, we've lost our very basic values. » Il n'y a pas de crise migratoire, il n'y a qu'une crise de l'humanité. Avec les réfugiés, nous avons perdu nos valeurs fondamentales. Et aussi une crise de l'Europe, qui retrouvera qui elle est lorsqu'elle saura de nouveau accueillir l'autre. Le secret de l'Europe est qu'elle n'aime plus la vie, écrivait Albert Camus dans L'homme révolté. Aujourd'hui, je crois que le vivant a pour elle le visage du migrant, le regard de l'exilé, et qu'il s'agit d'une chance à saisir. Sous un seul aspect, la migration peut peut-être être dite en crise dans sa définition. Le migrant d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, travailleur algérien ou immigré polonais. Il n'est pas que migrant, acteur social, il est aussi exilé, acteur de son histoire et de la nôtre. Nommer précisément les choses constitue une étape initiale indispensable. Il y a une crise de la nomination. Cessons de les nommer migrants, dit-on, ce sont des réfugiés. Le raisonnement voudrait que les migrants quittent leur lieu de naissance ou de résidence pour trouver de meilleures conditions de vie. Par conséquent, nommer ceux qui arrivent migrants gomme la guerre, l'oppression, la persécution. Les réfugiés auraient fui les conditions d'une vie impossible et ce départ involontaire fait partie de leur identité. À ce titre, qu'ils fuient la guerre ou la misère importe peu. Ce sont tous des réfugiés. Être réfugié signifie d'abord être lorsqu'un sujet fuit la menace du non-être. Migrant, réfugié, sauf que migrant participe présent du verbe migrer. Le migrant migre. Or, le participe présent désigne en français une action en train de se faire et l'agent de cette action. Quand le migrant cesse de migrer, quand il est arrivé, il n'est donc plus migrant. Qu'est-il alors ? Ah, réfugié ! Un point d'étymologie maintenant. Réfugié vient du fugere latin qui signifie fuir. Le préfixe ré indiquant non la répétition, mais l'intensité. Un réfugié fuit. Quand il est arrivé, il n'est plus en fuite, il n'est plus réfugié. Qu'est-il alors ? Parenthèse, réfugié en outre est un terme juridique qui désigne l'octroi d'un statut si la demande d'asile est obtenue. Donc, pas un migrant, pas un réfugié. Qui sont-ils alors ? C'est toute la question. Ils, elles, une masse anonyme, les migrants, les réfugiés. Et si j'aime à les nommer exilés, c'est que, dans ma définition, l'exilé est d'abord un sujet, une histoire, une mémoire, un sujet en exil, avec un récit à partager, une expérience à offrir et à transmettre. Et c'est la grammaire de la langue française qui, de nouveau, me le souffle, puisqu'un participe passé en français s'attache à l'idée d'une permanence, d'une condition. Sans oublier une autre objection lexicale maintenant qui rappelle que le terme « migrant » en français appartient au vocabulaire animalier. Les oiseaux ou les poissons migrent par instinct sans pouvoir s'y soustraire. Les humains, eux, s'exilent en ce que même soumis à la nécessité du départ migratoire, ils peuvent en faire un projet. La migration réclame des chiffres, l'exil exige des mots. Et si le migrant est d'abord un exilé, le nommer ainsi lui redonne un vécu. Passer de la seule question migratoire à la condition exilique constitue un changement qui compte car il permet d'élargir l'angle de vue. Une condition exilique, de même qu'on a pu traiter d'une condition humaine, d'une condition féminine, d'une condition noire, d'une condition juive, si les conditions de ces conditions sont éminemment historiques, variées et variables, les identifier et les désigner permet de les considérer comme des aspects de l'humaine condition qui, de Montaigne à Hannah Arendt, a inspiré les luttes d'émancipation. L'expérience exilique module la condition humaine comme l'interprète à leur façon la condition noire ou la condition féminine. Ne pas accueillir l'arrivant par devoir moral, religieux ou politique, ou par intérêt, mais parce que nous partageons une même condition. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger, disait Terence, l'ancien esclave né à Carthage et ramené à Rome. Bref, l'exilé n'est pas un étranger. Pour l'humain qui ne tient pas en place, l'exil est une seconde nature. La science a montré qu'une véritable pulsion migratoire poussait nos ancêtres à traverser les continents. Les récits religieux, mythologiques, l'ont pérennisé. Quant à l'Europe, la bougeotte fait partie de son ADN culturel. À l'interne, les Francs, les Celtes, les Normands, les Latins, les Croisés, comme à l'externe, impérialisme et colonialisme. Dans l'histoire de la littérature européenne, l'inscrit en pointillé, cet exil, l'inscrit sur les biographies des plus grands, d'Ovide à Hugo, de Dante à Joyce, de l'Ulysse d'Homère à l'Ulysse de Joyce, de la métamorphose d'Ovide à la métamorphose de Kafka. Une mémoire exilique doit être réactivée. L'arrivant a tant de noms. Banni, proscrit, déporté, refoulé, relégué, déplacé, réfugié, rapatrié, expatrié, apatride, desterrado, gastarbeiter, et aujourd'hui le clandestin, le sans-papier, le migrant. Pour accueillir cela, il faut se souvenir de la manière dont sont arrivés les autres. L'expérience exilique, que je nomme exilience, représente ce noyau existentiel commun à tous ces phénomènes de mobilité sous contrainte et suggère un nouveau paradigme propre à éclairer le phénomène migratoire contemporain. La condition exilique redonne au sujet en migration le droit de revendiquer une identité en dehors du seul statut que lui accorde l'institution. Un choix d'autant plus légitime que les dernières décennies ont vu le grand retournement du droit de l'asile, selon l'expression de Jérôme Valluy, qui a fait passer la figure du réfugié de victime à coupable, parallèlement au durcissement des politiques migratoires. Le droit d'asile fut conçu pour une application à une échelle individuelle et à des circonstances qui ne correspondent plus au phénomène de masse actuel. Plutôt que de le réformer pour corriger son inadéquation, mieux vaudrait peut-être rebâtir les politiques et les législations sur ce que je nomme un droit d'exil, à savoir les droits parallèles de sortir d'un pays et d'entrer dans un autre. Certes, ce droit d'exil n'a pour l'instant que la force de son principe, mais cela peut-être suffirait à l'inscrire parmi les droits fondamentaux pour l'humanité. Il s'agit du droit de l'hospitalité, écrivait Kant, non d'une philanthropie. Hospitalité signifie le droit qu'a chaque étranger de ne pas être traité en ennemi dans le pays où il arrive, continuait Emmanuel Kant. Ne plus étudier l'exil à partir de critères territoriaux, mais repenser le territoire en fonction de l'expérience exilique, tel est le fondement du droit d'exil. L'ambition que souligne cette dernière formule illustre la visée de la chaire. Encore une fois, qu'il y ait rupture ou continuité dans le mouvement migratoire contemporain, qu'il faille ou non considérer les arrivées irrégulières comme phénomène géopolitique inédit pour lequel l'Europe doit trouver les solutions adéquates, ou comme un épiphénomène dû à des circonstances politiques ou économiques contingentes, qu'il faille penser un statut spécifique applicable aux réfugiés climatiques, ou qu'il faille le traiter soit dans le cadre des études environnementales, soit dans le cadre des études migratoires classiques. Toutes ces questions demandent un cadre de pensée nouveau que la chaire prétend dresser. Un point de généalogie concernant les études sur la migration. Deux aspects, la fragmentation disciplinaire et le nationalisme méthodologique. Premièrement, aborder dans l'ensemble des champs disciplinaires selon des axes thématiques spécifiques, les analyses des phénomènes migratoires sont rarement définies par des approches croisées. Deuxième point, si la migration est devenue un objet d'étude dans les sciences humaines et sociales depuis quelques décennies, elle le doit à un cadrage qui insère ces phénomènes dans des critères liés à l'état-nation et à l'appartenance ethnique. Les migrants ne sont pas des citoyens, même potentiels, et sont définis par leur origine. Ce sont des étrangers qui sont étudiés en tant que tels, de sorte que la recherche vient conforter les discours sur la normalisation et l'intégration. Le nationalisme méthodologique dénoncé par le regretté Ulrich Beck vient relayer les dispositifs étatiques gérant les flux migratoires. Pour contrer ces impasses méthodologiques, la recherche doit faire appel à des analyses qui renouvellent le rapport du migrant à l'État-nation par l'émergence de notions telles que gouvernance mondiale, cité globale, transnationalisme ou transfrontalisme. La chaire vise à développer ce savoir réticulaire qui suppose la mobilisation de l'ensemble des sciences humaines et sociales, voire d'autres disciplines. Refugee studies, diaspora studies, global studies, post-colonial studies, ou plus généralement international relations. Et il n'est pas vain que ces disciplines connaissent leur appellation familière en anglais. Ces approches se concentrent sur un certain nombre d'exemples historiquement ou géographiquement délimités. Juifs sous le nazisme, Africains dans les Amériques, Mexicains aux États-Unis, etc. Un second obstacle tient à la chronologie des domaines de recherche. Les refugee studies, par exemple, sont nés dans l'immédiate après-guerre avec la croissance des transferts de population concernant réfugiés et personnes déplacées. Les migration studies voient le jour à partir des années 1950 en réaction à la croissance des mouvements de population dus aux incertitudes politiques et économiques de la décolonisation. Aujourd'hui, l'actualité est différente, demande à prendre en compte la globalisation, à savoir les phénomènes de dispersion transnationale qu'elle induit. Cependant, la pluridisciplinarité demande une cohérence épistémologique qui oriente, qui rassemble ses résultats, pour parer le danger d'ahistorisation qui découle du processus exilique quand celui-ci n'est compris qu'anthropologiquement, alors que l'expérience migratoire révèle à la fois une aventure individuelle autant qu'il dégage une responsabilité sociale. À ce titre, la sociologie d'un Zygmunt Bauman est exemplaire à mes yeux et je rends hommage à sa constante défense d'une insularité éthique face au flot de la modernité liquéfiée. Le cadre scientifique du Collège d'études mondiales suffit à montrer la potentialité paradigmatique des études sur l'exil et la migration dans la mesure où leur objet rencontre inévitablement la préoccupation d'autres chaires, par exemple Rethinking Social Justice, Cosmopolitanism and Solidarity, la société en réseau, anthropologie et sociale et santé mondiale, ville globale, géopolitique appliquée, etc. Et puisque mondialisation ou globalisation du savoir, il y a, attesté ou en construction, son préalable demande à ce que les notions et concepts dont il fait usage soient opératoires à un niveau précisément mondial. Or, la migration, de par sa nature, ne connaît comme territoire que le monde. Je vous ferai grâce ici des détails quant au partenariat de cette chaire, quant aux activités déjà entamées ou prévues. Je voudrais revenir à ma question initiale, exil, émigration, rupture ou continuité. Je parlerai d'écart épistémologique et non pas de distance. Une distance signifie la mise en place d'un dispositif d'appréciation qui prend du temps, qui ralentit la réactivité. Un écart est un simple saut de côté qui permet de réunir ses capacités afin d'agir plus efficacement face au phénomène, et il y a urgence. Pour en revenir au nom de la chaire, exil et migration, je dirais que l'exil représente justement ou symbolise cet écart épistémologique qui me permet d'ajuster ma méthodologie pour traiter de la migration contemporaine. La condition exilique permet de réunir et de comparer l'ensemble des expériences migratoires et vient étudier leur convergence ou leur divergence. Un exemple juridique, l'obsolescence du droit d'asile en Europe et la nécessité d'autres formes juridiques. Or, celle-ci, comme tout corpus législatif, doit être fondée en pensée philosophique, morale ou religieuse. L'exil, expérience connue, inhérente à l'ADN culturel européen, fournira cet espace de pensée. Trois exemples de possibilités juridiques à soumettre au prisme de l'éthique exilique. Le laissez-passer européen, le visa humanitaire, la citoyenneté européenne. Opter politiquement entre les trois dépasse les compétences de la chaire, mais elle peut en revanche aider à saisir les enjeux derrière un tel choix grâce à une analyse de la situation contemporaine en regard des histoires et des mémoires exiliques propres aux cultures européennes. Dans une autre perspective, un constat ou un effet de rupture constitue d'autant moins un obstacle que les structures du savoir ont toujours été élaborées dans des périodes de rupture de civilisation et en conséquence des transformations apportées. La connaissance selon Platon, selon Descartes, selon Husserl est à chaque fois redéfinie selon un nouvel ordre du monde et vient guider la réflexion scientifique. Les sciences humaines et sociales n'échappent pas à la règle. Le savoir sur la migration, pas plus qu'un autre. Et il incombe à une chaire telle que celle-ci d'offrir un cadre de travail pour l'élaboration cohérente d'un savoir sur la migration. Après tout, cette conférence, ici, à la Fondation Gulbenkian, prend place dans un cycle intitulé « Tout se transforme ». Eh bien, la migration aussi se transforme. À un niveau global par son ampleur, à un niveau local par les difficultés qu'elle occasionne quant aux arrivées irrégulières et à l'éventuel octroi du droit d'asile. On ne peut pas faire comme si, ou du moins les gouvernements font comme si. Il revient aux chercheurs de dénoncer l'illusion du comme si. Danger de prendre le comme si pour un comme. Le migrant d'aujourd'hui n'est pas comme le migrant d'hier. On fait comme si, en légiférant avec des outillages rouillés tels que le droit d'asile, le statut de réfugié, l'accès à la citoyenneté, cela ne fonctionne plus. Les camps, les jungles, les occupations sauvages, bref, tout ce qui échappe à l'État montre que le droit d'asile est un moyen de gestion obsolète, voire un principe obsolète, car on ne peut pas examiner des milliers d'exilés arrivant le même jour au même endroit. On ne peut distinguer la motivation purement économique de la cause purement politique, le sésame pour l'asile, dans un récit exilique produit sans documents, via une interprétation délivrée par un survivant de l'enfer devant un fonctionnaire qui répond à des directives occultes. Ce qui fait qu'il est nécessaire à la fois d'examiner l'exil de masse contemporain et les migrations dans le monde, à la fois les circuits migratoires réguliers et les arrivées irrégulières, afin de dégager convergence et divergence. Je dis bien arrivées irrégulières, pour ne pas dire clandestines ou illégales. Irrégulières, c'est-à-dire en dehors des règles. En dehors, parce que ce sont peut-être les règles qu'il faut revoir, établir de nouvelles normes migratoires en regard d'une éthique exilique, d'un droit d'exil qui serait compatible avec les mouvements de ce que le géographe Gildas Simon appelle la planète migratoire. On parle beaucoup de migration, on organise des colloques, on publie des livres, on crée des chaires, tandis que des élections se préparent en France sur fond de populisme, que l'Europe perd son âme en oubliant que la princesse Europa était née au Proche-Orient et que Zeus, déguisé en bœuf, la ramena clandestinement en Crète, en oubliant que des exilés meurent non seulement en Méditerranée, mais aussi dans nos villes, que dans Paris, des gros blocs de pierre sont déposés sous un pont près du périphérique pour que les exilés n'y puissent dormir. Cependant, contre le catastrophisme déguisé en philosophie ou sociologie, contre le voyeurisme déguisé en empirisme ou en méthodologie, cette chaire entend questionner, questionner et encore questionner. N'est-ce pas Edmond Jabès qui disait que la question est l'exil de la réponse ? J'ai commencé par une image, je conclurai par des images, car l'expérience exilique contemporaine se donne à percevoir dans des données sociales et économiques, matérielles, humaines, mais aussi par des représentations, un domaine que la chaire explore pareillement. L'une des plus grandes difficultés d'appréhension réside dans un certain déficit de représentation. Une masse, les migrants, sans nom, sans visage et même sans origine, sauf pour distinguer les pourcentages et les quotas. Auparavant, c'était les Polonais, les Italiens, les Portugais, les Algériens, en bien ou en mal, mais ils venaient de quelque part. Les exilés d'aujourd'hui qui parviennent en Europe, d'où viennent-ils ? Des migrants. La question est aussi à prendre concrètement, car ils ne viennent pas directement d'Érythrée ou de Syrie. Ils traversent plusieurs pays sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Alors, d'où viennent-ils ? Une masse qui pourtant se perçoit aussi selon un régime narratif, textuel d'abord, administratif. Le récit à donner aux autorités pour être accepté ou non, récit testimonial également, les centaines de récits recueillis sur des sites ou des publications. Et puis un régime narratif visuel ensuite. J'ai ailleurs analysé les variations dans la production photographique qui accompagne depuis le début notre connaissance du parcours des exilés. Dans mon livre « La condition de l'exilé », une seule photo, celle d'un cliché de la US Navy pris en janvier 2012 au large des côtes maltaises, une embarcation accueillant entre 65 et 70 migrants somaliens. Ce qui m'intéressait alors était la précision avec laquelle étaient saisis des corps imprécis. Lors de la conférence d'ouverture de cette chaire en octobre dernier, j'allais jusqu'à comparer deux images d'enfants, le petit Eylan sur la plage de Bodrum et le petit prince. Le prince en exil de sa planète, le prince de tous les exilés. Pour le carnet Hypothèse et le compte Facebook de la chaire, je voulais L'homme qui marche de Giacometti pour rendre hommage au rôle d'acteurs sociaux, d'acteurs de leur histoire qu'il faut reconnaître aux migrants. Maurice Blanchot commentait les sculptures de Giacometti de la manière suivante : en elles se rencontrent l'ici et le nulle part. Je crois qu'effectivement, avec ceux qui nous arrivent, c'est le nulle part qui arrive et non pas le là-bas, un nulle part que nous devons dès lors partager. Mais Annick Sardin, notre attachée de communication à laquelle je sais gré de cette trouvaille, m'a proposé ce cliché de Harrison. L'espace entre les exilés assis à terre et les policiers debout est, je l'espère, celui de la chair. Où sommes-nous ? De quel côté ? Des deux à la fois ? Est-ce possible ? Est-ce tenable ? Dans l'hésitation, au moins entendre les questions des exilés, les voix des migrants, ne pas forcément y répondre, mais déjà les entendre. Merci de votre attention.